C'est l'histoire d'un éternel suspect, Francisco Benitez, légionnaire espagnol qui se suicide de façon spectaculaire en août 2013. Benitez, soupçonné d'être responsable de la disparition de sa femme et de sa fille, coupable ou non, une certitude, son parcours ramène à une ancienne maîtresse brésilienne disparue elle aussi quelques années plus tôt. Elisa Trana.
Août 2013, l'élection de Miss Roussillon a bien lieu, mais il manque sur la scène l'une des candidates.
Elle s'appelle Alison, elle a disparu avec sa maman. Elle rêvait de devenir Miss Roussillon.
Alison Benitez et sa mère, Marie-Josée, n'ont plus donné signe de vie depuis le 14 juillet. Le père et mari, Francisco Benitez, militaire au sein de la Légion étrangère de Perpignan, ne s'est pas inquiété tout de suite. Selon lui, elles ont quitté le domicile familial pour Toulouse, sans téléphone, sans passeport. Ce départ volontaire, les amis n'y croient pas. Jamais la jeune fille n'aurait laissé tomber le concours de Miss. Tardivement alertée, la police ne relève aucun mouvement bancaire ou téléphonique de la part des deux femmes. Pas de traces non plus dans les gares, les aéroports ou parmi les taxis. Des recherches sont alors menées, notamment sur ces terrains militaires où le père de famille a l'habitude de s'entraîner, car des soupçons pèsent sur lui, le soldat bien noté, sympathique, mais infidèle.
C'est quand même Francisco Benitez qui a vu pour la dernière fois son épouse et sa fille. C'est lui qui va chercher Alison le 14 juillet à Cagnes-en-Roussillon, après que celle-ci eut pris un repas en compagnie des membres du comité d'organisation de l'élection de Miss Roussillon.
Mais le magistrat ne peut interroger Francisco Benitez. Le 5 août, soit 3 semaines après la disparition de sa fille et de son épouse, le légionnaire est retrouvé pendu dans son bureau de la caserne Joffre. S'est-il donné la mort, abattu par le chagrin ou rongé par la culpabilité? Des traces de sang humain vont être découvertes au domicile familial de la rue Richepin, dans le congélateur notamment, et dans le lave-linge de la caserne. Les ADN correspondent à ceux d'Alison et de Marie-Josée. Leurs corps ne seront jamais retrouvés. Les enquêteurs vont également faire le rapprochement avec la disparition d'une maîtresse de Benitez 9 ans plus tôt, dans des conditions étrangement similaires. Derrière ces 3 fantômes, Francisco Benitez reste le suspect numéro 1 pour l'éternité.
Voilà donc pour ce rappel essentiel des faits. Dominique, on accueille sur le plateau Pauline Lallemand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous publiez notamment le résultat de vos enquêtes chez nos confrères de Elle et de Society, et cette semaine, vous publiez les disparus de l'affaire Benitez, donc qui nous intéresse, paru aux éditions Flammarion. On va revenir dans le temps, retour en 2013, vous êtes jeune journaliste à Paris Match, et vous débarquez à Perpignan pour couvrir une double disparition. Qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce que vous découvrez quand vous arrivez là-bas?
Eh bien, sur place, on a uniquement l'appel à témoins qui a été bricolé par les amis d'Alison. Elle était candidate au titre de Miss Roussillon et avait l'ambition de devenir Miss France. Et c'est en fait tous les proches d'Alison qui me préviennent et qui me disent il y a quelque chose de bizarre. Elle ne donne plus aucun signe de vie sur les réseaux sociaux. Elle était accro aux réseaux sociaux. Et il y a un début d'enquête. Et rapidement, le 2 août, il y a une ouverture d'information pour disparition inquiétante. Donc là, je suis sur place et je vais essayer de remonter un petit peu la piste des derniers moments où elles ont été vues en vie.
Et vous allez décrocher l'interview que personne d'autre n'a eue. Elle vous racontait ça, il est 8h du matin, je l'appelle, ça répond pas, je file dans la salle de bain et là, le téléphone vibre et c'est pas lui qui vous appelle.
C'est la police. C'est la police qui me prévient, qui vient tout juste de se suicider. C'est le lundi 5 août, et je suis la dernière personne à l'avoir vue en vie et qu'il faut absolument faire une déposition rapidement.
Qu'est-ce que vous retenez de votre réaction au moment où vous apprenez le suicide, suicide extrêmement spectaculaire, et puis de vos échanges avec cet homme, de votre rencontre avec cet homme que l'on voit, Francisco Benitez?
Oui, alors je le rencontre ce dimanche après-midi. Faut savoir qu'à ce moment-là, toute la presse titre les silences suspects du père, le mystère du légionnaire. Il y a toute une ambiance assez pesante autour de cette affaire. Et quand je le rencontre, c'est vraiment pour essayer d'avoir un peu son témoignage. Généralement, vous le savez, dans les affaires de disparition, les proches parlent, se pressent au micro, essayent d'organiser des battues. Là, il n'y avait rien. Il était complètement retranché dans le silence. Et donc, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je ne comprends pas votre silence. Et c'est peut-être ce qui a déclenché la rencontre et notre rendez-vous. Et lors de notre rendez-vous, il me remet une vidéo. Il me demande de diffuser cette vidéo sur le site internet du journal pour lequel je travaille, donc Paris Match. Et là, il essaye en fait de retourner la situation. Tout le monde le suspecte, on attend tous une garde à vue. Elle nous paraît assez imminente et justement, moi, dans mon enquête, j'ai très peur à ce moment-là de ne plus avoir accès au témoin numéro un de cette affaire. Et en fait, je le rencontre, il me demande de mettre cette vidéo en ligne et ça va être un point de bascule dans l'affaire puisque après, on apprend son suicide et c'est l'unique témoignage du père.
Quand vous le rencontrez, vous le sentez comment ? Il est quand même soupçonné d'avoir tué sa femme, d'avoir tué sa fille. Il y a des éléments quand même, il y a des choses. Bon, il y a une perquisition chez lui, il y a des odeurs nauséabondes, les voisins disent qu'ils ont senti des choses bizarres. Il y a un congélateur dans la caserne, il est dans la caserne de la Légion à Perpignan, dans lequel on va retrouver du sang. Dans la maison qui va être perquisitionnée, vous racontez, il y a les traces de sang dans la maison, c'est lavé à l'eau de Javel, enfin, putain, tout l'accuse, non ?
Oui, alors on n'a pas tous ces éléments au moment où moi je le rencontre, mais en effet, il reste le suspect numéro un. Et d'ailleurs, le procureur, en apprenant son décès, dira c'est un témoin clé qui part avec son secret. Quand je suis face à lui, il est très apeuré. Il s'effondre même, il pleure devant moi. Il sent que l'étau se resserre et que l'enquête se rapproche. C'est assez clair.
Pauline, est-ce que pour vous son suicide c'est un aveu ? Je pense à quelque chose en vous posant cette question. Jean-Pierre Trébert se suicide sans être allé au procès des meurtres de Katia Lherbier et Pauline Géraldine Giraud. Pierre Chanal, l'adjudant de Morvelon, se suicide alors que son procès commence pour les disparitions des jeunes de Morvelon entre 80 et 87. Benitez se suicide alors que de toute évidence, il irait devant une cour d'assises. C'est des aveux ?
C'est comme ça que c'est interprété à ce moment-là, vraiment. Mais parce qu'il y a quelque chose de théâtral aussi dans son suicide. Il est dans sa caserne, en uniforme, avec un foulard qui lui cache le visage. Il y a quelque chose de particulier dans cette mise en scène.
C'est quasiment une référence à Hannibal dans le palais florentin. Il y a cette espèce de mise en scène, effectivement, très avec cette référence historique. Ouais.
Il se pend ?
Il se pend.
En se défenestrant.
Exactement, de la caserne. Et c'est ces subalternes qui vont le retrouver et qui vont tout de suite se dire la rumeur l'a tué à ce moment-là. C'est qu'il il a fait ce choix-là et finalement, avec ça, il échappe à la justice.
Ce qui est aussi particulier dans cette affaire, c'est qu'il est considéré comme le responsable de cette double disparition, mais avec son suicide, il y a une autre disparition. Il y a des enfants. Les enfants d'une femme qui s'appelle Simone et qui reconnaissent Benitez et qui se souviennent de la relation que Benitez avait avec leur mère. Et cette mère, elle a aussi disparu des années avant.
Et oui, parce que le matin, quand on apprend le suicide de Francisco Benitez, la vidéo, du coup, apparaît sur toutes les chaînes d'infos, dont la vôtre. Et c'est parce que les enfants de Simone de Oliveira Alves voient cette vidéo, ils reconnaissent l'amant de leur mère qui a disparu 10 ans plus tôt. Et ils ont toujours cru à un abandon de leur mère parce qu'elle avait laissé une lettre manuscrite en disant je dois partir, c'est trop difficile. Et là, on découvre que le scénario est identique à celui de Marie-Josée. C'est assez saisissant parce que Francisco Benitez a été entendu comme témoin à l'époque. Il était à la Légion de Nîmes. Mais il dira... Finalement, il y avait eu une dispute. Oui, je suis la dernière personne à l'avoir vue en vie, mais elle m'a adressé un texto en disant « je pars, je te quitte ». Et c'est exactement la même chose qui s'est passée avec Marie-Josée. Il y avait une procédure de divorce. Ils étaient en instance de séparation.
Alors, il y a autre chose. Avant de se pendre, il appelle une femme, c'est ça, qui est aussi une maîtresse. C'est encore une maîtresse différente, ça.
Alors oui, l'été 2013 est vraiment rythmé par toutes ces alertes et toutes ces annonces dans cette affaire, puisque mi-août 2013, on apprend que la police a enregistré toute une conversation de Francisco Benitez quelques heures avant qu'il se suicide. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai retranscrit dans le livre, parce que c'est vraiment un témoignage des dernières heures et de l'état d'esprit de Francisco Benitez et de sa défense.
C'est une plongée quasiment psychologique, effectivement. Une dernière question, les trois corps?
Jamais retrouvés, on n'a toujours pas... L'affaire n'est pas terminée, mais c'est évident, à partir de septembre, c'est une information pour assassinat. Cherche des corps.
Je peux en poser une dernière question. Bien sûr, très vite. Vous écrivez dans le livre, dans votre livre, c'est un vortex. Pourquoi ?
Parce que de nombreuses femmes qui ont croisé Francisco Benitez, donc trois, ont disparu. Et la question que je me suis posée dans cette enquête, c'est est-ce qu'on prenait un risque à rencontrer Benitez comme j'ai pu le faire lors de ma rencontre ?
Et c'est aujourd'hui, rétrospectivement, la sensation que vous avez ? Vous aviez pris un risque ce jour-là en rencontrant ?
Alors, il avait vraiment l'ambition de diffuser son message vidéo. Donc, je n'ai pas pris le risque de disparaître. Je dirais pas ça comme ça.
Merci beaucoup, Pauline Lamand, d'avoir été sur le plateau. Donc, on renvoie les téléspectateurs d'Affaires Suivantes à la lecture de votre ouvrage absolument passionnant. Le voici, Les Disparus de l'affaire Benitez. Merci beaucoup, Dominique.